Marie-France Martel est avec moi en studio. Bonjour Marie-France.
Bonjour Steve.
Un document policier concernant l'explosion mortelle survenue chez Neptune a été rendu public hier.
En fait, c'est la dénonciation du service de police de Sherbrooke concernant cette explosion-là. Je vous rappelle, il y avait eu 3 travailleurs qui avaient perdu la vie. Malheureusement, une 30aine d'autres qui avaient été blessés à la suite de tout ça. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Et il y a eu une enquête policière qui a été menée parallèlement à toutes les, bon, l'enquête, si on veut, de la CSST. Et je vous rappelle que le DPCP, directeur aux poursuites criminelles et pénales, avait décidé de ne pas porter d'accusation à la suite de cette enquête-là du service de police de Sherbrooke.
Ça avait amené beaucoup de questions, mais on ne connaissait pas la teneur de l'enquête.
Voilà. Alors là, on a eu ce document-là. C'est Radio-Canada qui a obtenu la levée du scellé sur le résumé de l'enquête. Et ça nous a permis, hier, de mettre la main sur le rapport en question.
Il y a plusieurs employés qui ont été interrogés, qui racontent ce qu'ils ont vécu lors de l'explosion.
Des employés interrogés sur les procédures de sécurité, sur la formation des employés, le fil des événements. Et ce qu'on dit dans le rapport, ce qu'on peut lire, c'est que dans les 12 derniers mois de roulement chez Neptune, il y a eu 16 déversements d'acétone, dont 4 majeurs. Et peu avant l'explosion, j'ai glané quelques informations dans le rapport de 282 pages. Mm-hmm. Il y a un employé qui dit qu'il a entendu le couvercle du broyeur d'huile de krill exploser sous la pression. Il a entendu l'acétone sortir. Il y a un employé qui a crié dans l'intercom « Évacuation d'urgence, fuite majeure d'acétone ». Et une autre employée qui dit « J'ai pensé qu'on allait tous sauter ». Il y a des employés qui ont reçu des morceaux de plafond sur la tête. Il y a un employé qui dit qu'il a entendu un gros boom, qu'il a vu une boule de feu qui avançait dans le corridor. Ses vêtements se sont embrasés. Il dit avec un autre employé, je suis même entré dans le congélateur pour commencer à déchirer les vêtements brûlés. Il s'est rendu compte finalement qu'il était brûlé partout, qu'il n'avait plus de cheveux. Alors, des interrogatoires à glacer le sang. Et les gens racontent ce qu'ils ont vécu. Évidemment, ça n'a pas été facile pour eux ces heures-là.
Les employés ont aussi fait part des affirmations quant à la sécurité et à la pression de production chez Neptune. À voir, est-ce que c'est un incident ou est-ce que c'est quelque chose qui était répétitif dans le temps?
Ça semble, écoute, avoir été répétitif. On disait 16 déversements là, d'acétone. Il y a plusieurs employés qui ont dit n'avoir jamais fait d'exercice d'évacuation durant leur passage chez Neptune. Il semble qu'ils avaient peu de formation sur les dangers, les points de ralliement aussi en cas d'accident. Il y en avait 60 travailleurs lors de l'explosion. Là-dessus, 36 étaient là depuis 2 ans ou moins, et il y avait eu que 2 exercices d'évacuation au cours des 7 dernières années. Les gens disaient avoir de la pression pour augmenter la production parce qu'il y avait une deuxième usine d'huile de krill qui devait ouvrir. Alors, on dit qu'on faisait des demandes de travail. Les employés avaient beaucoup de tâches à faire. Certains n'étaient pas à l'aise avec les délais parce que ça devait se faire vite. Mm-hmm. Alors, ça, c'est relaté dans le rapport, toute cette pression que les employés sentaient de la part de Neptune pour aller rapidement avec cette production d'huile de krill qui est en croissance.
Et il y a aussi un événement qui implique l'une des victimes, Marc Couture.
Oui, c'est son collègue, en fait, et meilleur ami qui est interrogé par une des enquêteurs qui dit que Marc Couture, l'une des victimes, avait constaté en septembre 2012, donc quelques mois avant l'explosion, que lorsqu'il ouvrait un couvercle de réservoir, il recevait des vapeurs d'acétone en plein visage. Il y avait trop de pression. Et un de ses collègues lui a dit, va en discuter avec un supérieur de la situation si tu as des inquiétudes. Et selon ce que Marc Couture lui aurait dit, il se serait fait répondre qu'il parlait trop, qu'il devait se mêler de ses affaires. Donc, l'ami de Marc Couture dit qu'il était inquiet visiblement. La production avait de la difficulté. Les valves fermaient ou ouvraient sans raison, sans commande. Le système était surchargé. Bref, l'explosion a eu lieu quelques mois plus tard et malheureusement, Marc Couture est décédé. Donc, des employés qui conjuguaient avec ce manque de formation et ces inquiétudes-là, et malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé.
Marie-France, j'ai envie de te parler d'un point de vue humain. Ça t'a replongé dans un dossier. Tu avais été une des premières sur place à ce moment-là. Ça te faisait quoi de lire ces histoires-là puis de se ramener sur ce drame à Neptune, quand même.
Bien, de voir de l'intérieur comment ça a été vécu, parce que nous, on est tout près de la rue Pépin, ici, au 107.7. Et effectivement, on avait entendu cette espèce de gros boom. Et je m'étais rendue rapidement sur les lieux. Et là, de voir ce déploiement policier, pompier, ambulancier, on ne soupçonnait pas l'ampleur, mais au fur et à mesure que le temps avançait, on l'a compris. Et de voir, bon, malheureusement, ces décès et ce que les gens ont vécu, parce que là, de l'intérieur, ça a dû être très, très difficile à vivre, épeurant de sentir qu'on c'était peut-être la dernière heure. Mm-hmm. Et comme journaliste, ben, ça avait duré une partie de la journée, de la soirée. Il y avait eu beaucoup de points de presse. Les pompiers, eux, qui avaient dû conjuguer avec cette évacuation-là. Donc, c'est un gros événement journalistique pour nous au 107.7. On était en onde, à ce moment-là. non-stop.
Émission spéciale avec Martin.
Oui, effectivement. Et bon, je pense que les entreprises dans le parc industriel ont appris de tout ça par la suite.
Souhaitons-le.
Mais c'est quelque chose. Et 6 ans plus tard, bon, d'apprendre tout ça, on constate qu'il y a les infractions qui ont été, les constats qui ont été donnés. On parle de 58 000 de la CSST Estrie et 86 000 pour avoir enfreint la loi sur l'environnement. Il y avait des raisons.
Et pour les gens qui se posent la question, pourquoi il n'y a pas eu de dépôt d'accusation, c'est quand tu lis ça de négligence criminelle, visiblement, la police a fait son travail. Est-ce que le DPCP a fait la sienne? On sait que dans le cas de Mégantic, on peut traiter, on peut faire des parallèles quand même assez faciles, assez évidents entre la poursuite de négligence criminelle qu'il y a eu à Lac Mégantic, puis il n'y en a pas eu pour Neptune. Puis pourtant, tu dis, on dirait que c'est une culture d'entreprise dans les deux cas. C'est vrai.
Oui.
J'aimerais vous rappeler que pour Lac Mégantic, ils ont été reconnus non coupables aussi de négligence criminelle. La décision du DPCP était la bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, on lève le voile sur plusieurs informations aujourd'hui et hier. Merci Marie-France.
Bienvenue.